Bonjour, chers auditeurs. Eh bien, je vous retrouve pour la suite, la deuxième partie de ce thème intitulé Le mensonge. Et je voudrais tout de suite vous parler de ce qui se passe quand l'homme ment. Alors, quand j'étais petit, on me disait souvent menteur et voleur. Ça va ensemble, menteur et voleur, ça va ensemble, et c'est très vrai. En général, un voleur ment, et un menteur n'est pas loin d'être un voleur aussi. Alors nous allons voir, au travers des versets de la Bible, que le mensonge de l'homme est associé à d'autres travers. Premièrement, la tromperie ou la fraude. Psaume 55. Versets 21 à 24. Car il n'y a point en eux de changement, et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui, il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront point la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Donc le mensonge est associé à la tromperie et à la fraude. Deuxième point, le mensonge est associé au mal et à la destruction. Psaume 52, versets 2 à 5. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi, Dieu t'abattra pour toujours, il te saisira. Et t'enlèvera de ta tente, il te déracinera de la terre des vivants. Troisièmement, le mensonge est associé à l'effronterie. Jérémie chapitre 6, versets 13 à 15. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Quatrièmement, le mensonge est associé à la violence et à la rapine. Nahum chapitre 3 verset 1. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Cinquième point, le mensonge est associé à la méchanceté et au penchant à faire le mal. Jérémie chapitre 9 verset 1 à 5. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns les autres. Ils ne disent point la vérité, ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Quand je lis ce passage, j'ai l'impression que l'on parle de notre époque où le sport favori, le sport national, est de tromper son voisin, son ami, sans aucune vergogne. La Bible est extrêmement claire sur ce que Dieu pense du mensonge. Alors, je vais vous lire 5 versets. Écoutez-les bien. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà, donc il est bien question des menteurs, mais ils sont associés aux impudiques, aux enchanteurs, aux idolâtres, aux abominables, aux meurtriers, aux incrédules, etc. C'était Apocalypse 21, verset 8. Et dans Apocalypse toujours, mais chapitre 22 et verset 15, il est dit « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Apocalypse 2, verset 22. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Donc, Dieu fait l'éloge de cette Église qui a su discerner que ces faux apôtres étaient uniquement des menteurs. Proverbe, chapitre 12, verset 12. Non, chapitre 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Proverbe 12, 22. Et enfin, psaume 101, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison, mais celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Donc, avec ces 5 versets, nous pouvons être persuadés qu'aucun menteur n'ira au paradis. Voyons maintenant ce que Paul dit aux églises. Éphésiens chapitre 4, verset 25. On lit ceci. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Voilà. Le mensonge n'a pas sa place dans une église. Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Eh bien, nous allons faire une pause musicale et je vous parlerai ensuite d'un drame qui s'est passé il y a longtemps et qui a conduit un homme dans le mensonge pour couvrir son péché et s'est allé de mal en pis. Nous verrons cela tout de suite après cette pause. À tout de suite. Eh bien, je vous retrouve donc pour la suite de cette deuxième émission sur le mensonge. Et nous lisons dans 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 1er. 2 Samuel chapitre 11, verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit : « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit « Uri n'est pas descendu dans sa maison ». Et David dit « À Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et ses serviteurs et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. » Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ?»« Qui a tué Abimélec, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébet ? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille ? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. » Les archers ont tiré du haut de la muraille et étaient sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués, et ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui, Nathan c'est le prophète, et lui dit « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous les yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Voilà donc une histoire bien triste, qui est l'histoire de David, et ça mérite quand même quelques commentaires. Le premier, c'est que David n'était pas à sa place. David aurait dû être comme Uri, auprès de ses soldats. C'était un homme de guerre, c'était le chef de guerre, et il n'avait pas à se mettre en repos pendant que ces hommes guerroyaient et dont certains perdaient la vie. La deuxième remarque, c'est que la tentation est venue, mais il n'a rien fait pour résister à cette tentation. Il a continué à vouloir, enfin à céder à sa convoitise et donc à pécher. Mais le péché, vous savez, en entraîne souvent un autre. Et ce qui est arrivé, c'est que, évidemment, la femme d'Uri s'est retrouvée enceinte. Catastrophe. Parce que si cet enfant naît et qu'il ressemble à David, tout le monde saura. Donc, ça pose un gros problème. Comment faire pour effacer sa faute? Alors d'abord, il a tenté de faire venir Uri pour qu'il couche avec sa femme, ce qui aurait justifié la naissance de cet enfant. Mais il a eu beau faire et beau dire, Uri n'a pas souhaité agir de la sorte. Il était solidaire de ses hommes et il n'a pas souhaité profiter de sa permission, si j'ose dire, de sa perme, pour se divertir, parce qu'il était de tout cœur avec ses camarades. Ce que David, lui, ne faisait pas, évidemment. Donc, son plan a échoué. Comme son plan a échoué, il fallait trouver autre chose. Le stratagème n'ayant pas fonctionné, David est désemparé, et il ne sait plus quoi faire. Alors il décide de faire tuer Uri. et comble de la perfidie, c'est Uri qui va amener à Joab sa condamnation à mort. David a du culot quand même. Et donc, Uri, eh bien, est tué par l'ordre du roi, par l'ordre de David. Mais évidemment, tout cela, eh bien, provoque la colère de Dieu. Il y a toute une série de conséquences dramatiques que vous pourrez lire à la suite de ce texte. Voilà, donc, le péché amène le mensonge amène le péché, et tout ça finit bien tristement. Je vous quitte sur cette première histoire, nous en verrons deux autres la semaine prochaine. Soyez bénis et gardez-vous du mensonge. À bientôt.